Bonsoir et bienvenue dans À votre avis, votre programme de vendredi. Eric Omanilakiza avec vous. Firmin Koyaweda assure la réalisation de cette émission. Nous abordons un sujet délicat mais essentiel dans la vie de nos familles africaines. La sexualité, les relations amoureuses et l'intimité chez nos filles adolescentes. Dans beaucoup de cultures, ces sujets restent tabous. Et il peut être difficile pour les mamans de savoir comment en parler avec leurs filles tout en respectant nos valeurs et traditions. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux femmes exceptionnelles qui ont accepté notre invitation, une femme musulmane d'origine marocaine et une femme médecin chrétienne d'origine burundaise qui vont partager leur expérience personnelle sur la manière dont elles ont navigué ces discussions avec leurs filles. Comment trouver un juste équilibre entre autorité et souplesse? Comment aborder ces sujets sensibles? Surtout, comment soutenir et renforcer le lien mère-fille pendant cette période cruciale de l'adolescence? Restez avec nous pour une conversation pleine de sagesse et de conseils pratiques sur la communication mère-fille à l'adolescence. Nous sommes en ligne avec Zahra El Berber, originaire du Maroc et résident en France. Bonsoir Zahra.
Bonsoir.
Le docteur Dani Claire Sanghima est en Allemagne. Elle est avec nous. Bonsoir, docteur Dani.
Bonsoir, Eric Manerakiza. Bonsoir.
Je signale que les scouts vous appellent Alouette Rayonnante. Zahra, je vais commencer avec vous. Oui. Comment avez-vous abordé le sujet de la sexualité des relations amoureuses avec votre fille tout en respectant les enseignements de votre foi? Je signale que vous êtes musulmane.
Tout à fait, Eric. Je vous remercie d'abord pour l'invitation sur ce sujet qui, effectivement, est très important. Parce qu'aujourd'hui, on doit vraiment se méfier, quelles que soient nos confessions, des longues périodes de silence. On doit revenir sans cesse vers nos adolescents. Parce qu'aujourd'hui, la société veut aller plus vite que la musique et ils sont exposés, malgré eux, beaucoup trop tôt, à certains sujets que le parent doit aborder en amont avec eux, avant qu'ils ne soient confrontés et qu'ils interprètent mal les choses. Donc concrètement, par rapport à votre question, Eric, j'y suis, moi, allée vraiment avec beaucoup de délicatesse et en utilisant justement tous ces exemples qui sont dans les écrits. Parce que figurez-vous que c'est supposément un tabou, mais dans la religion musulmane, la sexualité n'a jamais été un tabou. Dans les textes, il y a le sujet de la sexualité qui revient régulièrement. Avant la puberté, en fait, si toutes les graines du cheminement spirituel étaient correctement ancrées chez nos enfants, ça porterait les fruits au moment de l'adolescence et au moment de la puberté, de toutes ces périodes où ils se recherchent eux-mêmes, et la foi leur permettrait d'avoir des réponses concrètes à ces périodes qui sont délicates.
Dani Claire?
Eh bien, à la même question, je répondrai tout en complétant ma collègue à côté. On a des jeunes enfants, des jeunes qui sont dans une phase très, très délicate, avec des cultures aussi différentes, influencées par d'autres cultures. En ce qui me concerne, j'ai eu l'avantage déjà, comme tu l'avais dit à l'avance, je suis scout, donc j'ai eu affaire avec ce genre de sujet déjà à mon très jeune âge. Et mon autre côté médecin me donne cet avantage d'aborder certains sujets, mais vraiment profondément, dans la pratique comme dans l'éthique et dans le vœu en soi de l'enfant. Donc j'essaye de communiquer, de lui donner aussi mes exemples et de lui dire quel est ton choix, comment, et de l'accompagner dans son analyse, parce que l'enfant est souvent confronté à des choix qui ne sont pas nécessairement faciles et lui-même ne se connaît pas, il est influencé. Donc j'essaie un peu de l'encadrer aussi dans la foi, mais de l'encadrer, de lui dire dans ce genre de cas, comment souhaiterais-tu te voir? Comment aimerais-tu être dans une année, dans deux ans, dans cinq ans? Quel est ton avenir dans ce domaine-là? Où est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu voudrais? Donc, en soi, pas de tabou, mais essayer de parler de tout, tout en lui donnant le choix, mais un choix guidé, un choix soutenu et un choix protégé. Voilà.
Et quels sont les défis que vous avez rencontrés en parlant de ces sujets avec votre fille et comment avez-vous surmonté ces obstacles? Ça ne doit pas être facile au début. Dani Claire.
Oui, mon premier défi, c'est face à l'âge très précoce. Hein, les enfants sont confrontés à ce genre de choses vraiment à très très bas âge. Donc pour moi c'est trop tôt et puis il y a trop de dégâts qui peuvent se faire. Je vois aussi le côté médical. L'autre défi c'était les cultures. Alors si on va rencontrer quelqu'un qui est d'une autre religion ou bien d'une autre culture, comment s'y prendre? Nous tous on est égaux. Alors si on peut accepter tout le monde, est-ce que eux ils peuvent nous accepter? C'est ce genre de défi où tu as envie de protéger ton enfant, mais tout en le laissant libre, parce qu'il ne faut pas le limiter. Il ne faut pas non plus qu'il soit blessé, donc tu es à côté. Voilà mes défis les plus... où je me dis, il faut que j'y aille petit à petit avec mon enfant et en communiquant le plus possible.
Zara,
sinon, le
oui.
reste... Ouais,
oui, Dani Claire, oui. Finissez votre...
Oui, non, je dis, sinon le reste, je ne fais qu'accompagner l'école et l'accompagner tout en... En essayant de trouver des réponses à ces questions. Quoi. Voilà.
Zara.
Je suis tout à fait d'accord sur ce dernier point que relève Claire. L'accompagnement est vraiment la base du défi que chaque parent doit aujourd'hui pouvoir surmonter. Concrètement, en repensant l'éducation, en la mesurant d'une façon différente auprès de nos enfants aujourd'hui, parce que c'est une société différente de celle dans laquelle nous-mêmes nous avons évolué. Pour moi-même, malgré que je suis née et que j'ai grandi en France, j'ai toujours vécu en France, mais nous avons cette double culture. Nous sommes d'origine marocaine. J'ai essayé de leur inculquer tout ça, donc c'est un grand défi de conserver une trace, de conserver des connaissances de nos cultures africaines, mais en même temps, d'évoluer dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. En fait, il ne faut pas qu'on surprotège nos enfants concrètement. Parce qu'aujourd'hui, en les surprotégeant, ce serait équivalent à les déposer dans des pires situations, sans préparation, sans préavis, du jour au lendemain. On doit leur dire ce qui se passe. On doit leur expliquer ce qui se passe. La première fois que mes filles, qui aujourd'hui sont âgées de 22 et 25 ans, ont mis les pieds dans un pub, c'était accompagné de leur maman. Parce que je sais que la curiosité, tout comme moi, à leur âge, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes. Je ne vais pas commencer par leur dire qu'il y a des personnes qui sont très mal intentionnées, qu'on peut leur mettre de la drogue dans leur verre pour abuser d'elles et de leur corps. Je ne vais pas y aller avec la peur ou essayer de les effrayer de cet endroit-là. Non, je vais les y emmener. Et je vais leur montrer... Et elles-mêmes, en sortant, ah, tout ça pour ça, maman, elles-mêmes vont constater que certains lieux de débauche qui malheureusement aujourd'hui sont tellement mis en avant, les enfants sont convaincus qu'ils sont obligés de rentrer dans ce monde. Beaucoup parmi eux n'aiment pas ces endroits, se forcent à y aller pour rester dans un certain moule. Et on sait que directement les soucis liés à la sexualité ont leur base dans ce genre d'endroits. Où l'on force les jeunes à faire comme tout le monde, même si de base ça ne les intéressait pas. Eh bien moi, pour moi, le défi, qui en plus d'être un défi, est vraiment un devoir parmi les rôles de la parentalité, ça va être d'éduquer d'une façon intelligente en m'intégrant dans cette façon d'éduquer, parce que je n'ai pas été éduquée de cette façon. Donc, quelque part, je me rééduque en les éduquant, tout simplement.
Oui. Et comment vous trouvez l'équilibre entre imposer une autorité nécessaire et laisser votre fille explorer son indépendance à travers ses choix personnels.
On ne peut pas imposer finalement son autorité, on doit simplement valoriser le jeune, l'accompagner à comprendre que l'autorité parentale est là pour les choses qui vont l'arranger, mais également pour les choses où il va grincer des dents. Si tu veux que mon autorité parentale soit là lorsqu'il faut te payer ton permis de conduire, eh bien sache que mon autorité parentale sera également là quand tu décideras de rentrer à 2h du matin et je serai contre. Tu ne peux pas choisir l'un des deux. Soit tu prends le package, soit tu... c'est ton choix. Il faut les amener à penser que c'est eux qui décident, que c'est eux qui font ce choix d'accepter notre autorité. Bien qu'en réalité, on va la mettre en parallèle avec, excusez-moi le terme, une carotte, parce que même ados et même jeunes adultes, ils fonctionnent encore comme ça. C'est du donnant-donnant. Mmh. Ah, tu veux sortir un peu plus tard ? D'accord, eh bien, je ne veux pas que les tâches ménagères se cumulent. Tu dois faire ton planning, tu dois participer à la vie de la maison et pas uniquement lorsqu'on met les pieds sous la table pour un bon repas familial, également dans les tâches ménagères. En fait, il faut amener le jeune à comprendre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, qu'il y a toujours des compromis. Et logiquement, même, en bas, même dans cette thématique d'aujourd'hui, de votre émission, il faut réussir à équilibrer pour ne pas l'imposer, l'autorité, mais les amener à l'accepter parce qu'en contrepartie, ils y voient un avantage.
Dany Claire, dans oui. le contexte africain, les parents ont tendance à imposer leur autorité. Quelles sont les approches qu'il faut utiliser pour comprendre les changements émotionnels de leurs filles, et notamment des sautes d'humeur liées à l'adolescence?
Eh ben, je crois que l'un des meilleurs moyens, c'est la communication et aussi l'observation, surtout la mère qui est proche de ses filles, mais aussi du garçon, essayer de temps en temps regarder les changements et puis les sauts d'humeur et tout, et puis la communication, surtout la communication. Étant moi-même été éduquée autrement, je trouve que le grand défi aussi que j'ai, c'est de pouvoir m'adapter à leur mode de vie, à leur façon à leur changement, et puis j'essaie de voir est-ce que mes filles ou bien ma fille elle sourit, est-ce qu'elle est beaucoup plus, elle est sortie ces derniers temps avec les mêmes amis, est-ce qu'elle a changé de cercle d'amis, et essayer de communiquer, de lui faire un peu filtrer la bonne compagnie, les bonnes habitudes, les bonnes mœurs, et toujours pour moi c'est où veux-tu aller, comment. Et aussi, parfois, je fais le parallélisme avec ma vie ou bien avec mes charges, mes devoirs au quotidien, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure. Essayer de lui dire, voilà, moi je fais ça, 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 toi tu dois faire ça avant de faire ça. Donc, une certaine responsabilité amène à ce que l'enfant soit un peu, je dirais, il y a ça un peu toujours dans les parages.
Donc, ce que vous faites, c'est d'encourager les approches positives dans votre relation, n'est-ce pas?
Oui, oui. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire, l'enfant, nécessairement, il y aura des sauts d'humeur. Nécessairement, il y aura des déceptions, des déceptions amoureuses. Donc, sans toutefois entrer dans son cercle très, très, très privé, tu peux voir l'enfant. Tu le connais depuis le début. Et puis, tu communiques petit à petit, et elle s'ouvre, elle peut s'ouvrir, elle te dit, nécessairement pas tout, mais tu l'accompagnes, et puis tu lui dis, voilà, ça, c'est comme ça, tu essaies un peu de trouver des parallélismes, et puis de l'accompagner. En tout cas, lui montrer que le cocon familial, c'est toujours ce coussin-là sur lequel l'enfant va toujours retrouver un peu ses forces, un peu revenir, retrouver ses racines pour un peu se relancer. C'est ce que je dirais.
Zahra, malgré les défis de l'adolescence, comment maintenir une communication ouverte et sans jugement avec votre fille pendant cette période délicate?
Alors, la communication restera ouverte. Il y aura moins de frustration et donc de disputes au sein du foyer, je pense, à partir du moment où les approches qui vont être faites avec ce jeune adulte vont correspondre et vont être surtout en adéquation avec le reste de son éducation depuis tout petit. Pour moi, le secret, c'est simplement la foi et l'accompagnement dans une spiritualité qui va permettre à l'enfant de toujours se dire que même si mes parents ne sont pas là, même si mes parents ne me comprennent pas, même si mes parents ont du mal à comprendre ce que je ressens, Dieu me comprend. La foi, pour moi, reste en premier lieu ce qui sauve aujourd'hui les relations beaucoup trop souvent déchiffrées entre certains parents et leurs enfants. Parce qu'au final, on se rend compte que dans nos croyances, quelle que soit la religion, parmi en tout cas les principales religions monothéistes, on se rend compte que faire aimer Dieu et les principes, la pratique d'une religion vont permettre à l'enfant, même lorsqu'on n'est pas auprès de lui, de conserver une éthique et une psychologie suffisamment forte pour ne pas être entraîné par n'importe quel courant, surtout qu'on constate que la plupart du temps, les enfants sont trop influençables par leurs amis et que c'est souvent à ces moments-là que les pires dérives arrivent.
Vous suivez VOA Afrique, c'est à votre avis, Eric Mandela-Kiza avec vous. Communication mère-fille à l'adolescence, c'est notre sujet de ce soir. Nous avons Zahra El-Berber et le docteur Danny Claire Sangima qui sont nos invités dans cette émission. Nous marquons une petite pause et nous revenons dans un instant.
À votre avis sur VOA Afrique.
Communication mère-fille à l'adolescence, nous en parlons. Docteur Danny Claire, que faites-vous pour offrir à votre fille un soutien émotionnel, surtout lorsqu'elle traverse des moments de doute ou de stress? Pas seulement à votre fille, mais à sa fille.
Dans ces moments-là, j'essaie de lui montrer que c'est tout à fait normal. On est tous passés par là. Et surtout, les moments d'échec, les moments de doute, ce sont les meilleurs moments où on apprend beaucoup plus sur soi. Ça, c'est ma phrase presque de tous les jours. Les meilleurs professeurs sont nos échecs. On s'y apprend. Et on n'opère en rien nos valeurs ou bien notre estime de soi parce qu'on n'a pas réussi quelque chose. Par contre, on apprend là où on est fort et là où on est fort. Donc, j'encourage. On ne doit pas avoir peur d'échouer ou bien donc dans ces moments d'hésitation, on doit savoir ce dont on est capable. Sur ce côté, je crois qu'ils sont... J'ai trois enfants et je crois qu'ils essayent quand même plus ou moins de se défendre, même quand quelqu'un essaye de leur dire « Tu n'as pas ça, tu ne connais pas ça. » Non, non. Même si je ne connais pas ça, je peux faire ça. Je sais que ça, j'en suis capable. Et je ne suis même pas un Superman ou bien Superwoman. Je ne peux pas faire tout, mais ça, j'en suis capable. Ça c'est moi. Donc, voilà. Sur ce côté, je crois que, ouais, c'est ça ma stratégie.
Est-ce que dans certaines situations, faut-il, par exemple, faire recours à des amis ou à d'autres parents?
Bon. Ça m'est rarement venu en tête, ou bien j'en ai rarement eu besoin, d'autant plus que je suis aussi avec ma maman. Qui est aussi une bonne pédagogue, mais pourquoi pas? Pourquoi pas si on a un bon cercle d'amis qui affrontent les mêmes situations et tout, et que les enfants se connaissent, et ben on se donne des exemples. On apprend le plus aussi en voyant un exemple vivant, parlant. Pourquoi pas?
Zahra, vous êtes spécialiste du marketing. Nous vivons actuellement sous l'influence des réseaux sociaux. Comment soutenir sa fille face à cette influence et surtout à la pression sociale qui l'entoure?
Simplement, aujourd'hui, il faut à nouveau souligner que les réseaux sociaux ne facilitent pas les choses. Si en parallèle, il n'y a pas une réelle communication au sein des foyers. Parce qu'un enfant va se contenter effectivement, comme vous le dites très bien Eric, de ce qu'il va lire, écouter, visionner en ligne. Et si en parallèle, il n'y a pas un réajustement, c'est vrai que psychologiquement, ça devient assez compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, la solution des réseaux sociaux, c'est de partager justement avec son enfant des sites ou même des applications, il en existe de nombreuses, dans lesquelles il va pouvoir apprendre d'une façon, disons, sereine et surtout à son rythme, les choses qu'on est supposé lui transmettre. Il n'y a pas de tabou en matière de sexualité ou en matière de difficultés d'éducation, etc. Il fut une époque où il était quasiment tabou, quasiment impossible de dire « je n'arrive pas à éduquer mon enfant, j'ai besoin d'aide ». Ça a beaucoup évolué à ce niveau-là. On n'a pas appris à être parent. C'est quelque chose pour lequel aucun d'entre nous n'a suivi de formation. Pourtant, du jour au lendemain, on se retrouve parent et on doit assurer ce rôle. Aujourd'hui, heureusement qu'en ligne, justement, grâce aux réseaux sociaux, même sur la parentalité, il y a pas mal d'ateliers, pas mal de tutos qui aident à comprendre la psychologie de nos enfants et la nôtre aussi. Parce qu'il faut également se remettre en question et comprendre que parfois, le souci ne vient pas de l'adolescent, mais de l'adulte qui est trop fermé.
Dani Claire, sur cette question de l'influence des réseaux sociaux, nous avons un problème de connexion. Ah. Allô ?
Technique.
Allô ?
Alors, de mon côté, je vous entends, Eric.
Ah, d'accord, nous avons perdu le contact avec le docteur Dani Claire Sanghima. La technique va essayer de rétablir la connexion tout à l'heure. Zara, je continue avec vous. Comment arrivez-vous à cultiver l'estime de soi de votre fille tout en respectant son besoin croissant d'indépendance? C'est le moment où l'adolescente veut s'affirmer.
Oui, exactement. Et ça commence de plus en plus jeune, ce besoin de s'affirmer. Et l'estime de soi de nos enfants passe au travers de notre regard, ne l'oublions pas. L'enfant va d'abord rechercher cette estime, chercher à se valoriser auprès de ses parents. Souvent, certains enfants vont aller très loin dans la délinquance, dans les soucis, dans les problèmes, parce qu'ils sont en manque d'attention, en manque d'affection, et que malheureusement, c'est ce qu'ils vont utiliser comme moyen de pression auprès de leurs parents. Coucou, j'existe, coucou, je suis là, mais ils le font d'une façon qu'il ne faut pas. Donc l'estime de soi, à mon sens, elle passe par la valorisation de l'enfant, passer du temps avec son enfant, faire des activités avec son enfant, tout simplement conserver un lien familial qui aujourd'hui, malheureusement, se perd lorsque je vois, et vraiment c'est navrant, à table, une famille, et que chacun est sur un écran, il ne partage rien finalement. Il y avait une petite vidéo un peu humoristique qui circulait d'un ado qui disait « La Wi-Fi de la maison est tombée en panne, j'ai donc décidé d'aller à la rencontre des personnes avec qui je vis. » Et je trouve que c'est un symbole très fort pour la valorisation des liens familiaux qui doivent vraiment être aujourd'hui retravaillés.
La liaison téléphonique est rétablie avec le docteur Dani Claire Sanghima. Dani Claire, vous êtes là, vous nous entendez. Oui, comment soutenez-vous votre fille à l'influence, face à l'influence des réseaux sociaux et de la pression sociale qui l'entoure?
Je voudrais aller dans la même direction que ma collègue et dire que c'est vraiment un monde très, très complexe et très compliqué. Donc, à nous de faire le choix de, un, donc faire, comme le disait ma colocatrice, elle disait, il faut faire des tutos, choisir, faire soi-même le choix de ce qu'on regarde et en discuter, partager avec les enfants. J'essaie de faire de mon mieux sur ce côté. Et d'autre part aussi, je vois, mais qu'est-ce qui occupe ton temps? Quelle est l'émission que tu regardes? Qu'en trouves-tu? Ou bien, quelles sont les leçons que tu trouves de là? Et on essaie d'en discuter. Mais aussi, limiter le temps sur les réseaux sociaux afin vraiment de garder ses racines. Chaque être humain a besoin de ses racines pour pouvoir mieux se développer. Je n'irai pas imposer mes enfants à être typiquement africains ou bien typiquement burundais, comme ils sont aussi burundais, tchadiens, ou bien typiquement tchadiens, mais je leur dirai, eh bien, vous avez une mixture de cultures, choisissez-en les meilleures et allez plus, tout en sachant d'où vous venez. Donc, toujours se rappeler qui sommes-nous, où voulons-nous aller, qu'avons-nous à notre... Et le temps, il est tellement limité, donc utilisons-le d'une façon efficace. Sinon, il y a beaucoup de distractions. Il y a vraiment beaucoup de distractions. Si tu vois un enfant qui passe une heure sur les réseaux sociaux et puis il sort sans vraiment quelque chose de constructif, alors qu'un autre enfant à Singapour, en une heure de temps sur les réseaux sociaux, il a presque développé plein de choses, ça laisse à réfléchir. Donc, on essaye d'aller dans le sens comment utiliser efficacement son temps de, sur les réseaux sociaux, de son mieux. Ça ne se réussit pas tout le temps, mais on essaye.
Zahra, on s'achemine vers la fin de cette émission. En tant que mère et croyante, quels conseils donneriez-vous à d'autres mamans pour aborder ces sujets sensibles sans compromettre surtout leurs valeurs spirituelles ou culturelles?
Alors simplement, le conseil de la fin, pour ma part, ce serait de surtout sensibiliser notamment les jeunes mamans à comprendre que l'adolescent ou le jeune adulte, c'est à 100% une phase d'exploration, de recherche de soi-même. Il faut les encadrer, tout simplement, et être là lorsqu'ils tendront la main vers nous, sans pour autant trop les couver, parce que c'est pas bon non plus, mais il ne faut pas non plus les laisser livrer à eux-mêmes, comme on le voit faire souvent. Mon conseil, ce serait de toujours penser à un œuf, tout simplement. Observez un œuf. Si vous prenez un œuf dans votre main et que vous serrez la main trop fort, c'est vous-même qui allez le briser. Mais si votre main n'est pas suffisamment un minimum resserré, il va tomber par terre et de la même façon, il se brisera. Mon conseil sera donc, tout comme pour un œuf, de doser et de rester sur le juste milieu.
Dany Claire, donc pas de dictature quand il faut parler de traiter de...
Pour aborder dans le même sens, hein, la bonne méthode de dosage, c'est d'abord la communication et toujours accompagner, vraiment, toujours accompagner, essayer de s'adapter. Ils sont face à vraiment un plus grand défi. Quand je vois mes enfants, je me dis, oh mon Dieu, mon adolescence était moins compliquée, il était moins influencé, il y avait moins d'agression venant de la société. Donc, apporter ce genre de compréhension et essayer de s'adapter et de dire, ok, je communique avec mon enfant et j'essaie de voir quelle est la meilleure route. Surtout ne pas serrer, comme le disait Sarah, et de trop imposer, accompagner. Et bien sûr, la foi et les autres activités extrascolaires sont vraiment de bons outils. Si un enfant fait du sport, ou du théâtre, ou des chants, il y a de bonnes compagnies là-bas, ça aide aussi un peu à occuper utilement ce temps et à avancer. Voilà.
Une communication sans tabou, surtout. Parce qu'on peut communiquer sans toutefois faire passer le message.
Oui. Remarquez, nos enfants sont très intelligents. Et bien, s'il y a des choses qu'on nomme ou bien on essaie de couvrir, ils le portent directement. Donc, vraiment essayer d'être le plus ouvert possible. Il n'y a pas de tabou de les façons, des choses, ils les connaissent déjà. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Dany Claire Sangima. C'est la fin de votre avis. Un sujet délicat mais essentiel dans la vie de nos familles africaines, la sexualité, les relations amoureuses et l'intimité chez nos filles adolescentes. Communication mère-fille à l'adolescence, c'était le sujet de cette émission. Docteur Dany Claire Sangima, merci beaucoup de votre participation et votre contribution dans cette émission.
Merci
à vous aussi, Zahra El Berber, pour votre grande contribution dans cette émission.
Avec plaisir.
Merci à Firmin Koyaweda qui a assuré la réalisation de cette émission. Eric Manila qui a été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir et à la prochaine.